radio, c'est Marceau. Marceau le midi.
C'est vendredi, bon midi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 101. Mon nom, c'est Marceau. Pascal CV qui vient se greffer à l'émission.
Bien le bonjour, bon vendredi.
Ouais, tu me sembles en forme aujourd'hui.
Toujours.
Ouais.
À cette heure-ci, tu me dis beaucoup ça.
Ben
mais,
oui.
Mais t'as raison, j'ai comme remis l'activité physique de façon très intense.
Ouais.
Ça amène beaucoup d'énergie puis une présence mentale pour ton grand malheur.
Oui, exact. Il y a peut-être le choc électrique que tu as pogné tantôt, là, qui,
jamais.
Moi, me fait bien rire, mais qui, toi, t'a fait souffrir. Puis j'ai été avertir les gars de la technique parce qu'on me dit que dans un studio de radio, quand il y a des petits sparks,
ouais.
C'est jamais bon signe.
C'est vraiment gentil que ça t'ait fait rire.
Ouais.
Honnêtement, je pense que c'était de niveau où j'aurais pu mourir.
Oui.
Fait que je trouve que c'est peu de conscience pour ma personne, Yannick.
Mais j'aurais préféré que ça soit fait en ondes.
Ça m'a tellement fait mal,
oui,
que j'en ai manqué de réaction.
Je pensais que
c'était
cassé un ongle. J'étais là, voyons, ce bruit-là.
Non, mais t'as entendu, là.
Ouais.
C'était fort.
Ben oui, c'était fort.
Je le ressens encore.
Ah, pauvre petite. T'ancienneras plus le jour de tes noces.
C'est le fun parce que t'as tellement l'air honnête,
c'est
dans ta compassion.
C'est ce qu'il nous disait quand on était jeune. Hey, c'est 17 degrés sur Québec. C'est du soleil pour aujourd'hui, maximum de 20 degrés. Ce soir, des nuages avec un minimum de 11. Samedi, de la pluie qui devrait cesser en matinée. Une belle alternance de soleil-nuages par la suite. On va commencer à ramasser les feuilles. Maximum de 14 en soirée. Demain, ce sera dégagé avec un minimum de plus 5 degrés. Et dimanche, ce sera une alternance de soleil-nuages, maximum de 15 degrés. Il a un horaire très chargé. C'est la raison pour laquelle on a décidé de le passer en début de show. Normalement, quand on parle avec les politiciens, c'est tout le temps un petit peu plus tard. Mais là, il est en studio avec nous, puis on a le plaisir de l'avoir. C'est Jean-Yves Duclos, qui est ministre des Services publics et de l'approvisionnement du Canada. Monsieur Duclos, bon midi.
Bien, bonjour Yannick, bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Merci d'être là, Monsieur Duclos. Vous avez une rentrée parlementaire assez saisissante cette année, là.
Oui, bien, je commencerai par faire un lien avec ce que Pascal a dit tantôt. Effectivement, elle a l'air en super forme. Puis elle dit que c'est une des raisons, c'est qu'elle est très active physiquement. Puis c'est une chose que j'ai aussi découverte dans les derniers mois.
D'être actif physiquement?
Ouais,
vous êtes mis à vous entraîner?
Bien, je cours un petit peu. Je cours à tous les jours. Là. Je ne suis pas un marathonnier, là. Puis je vous regarde, là, puis ça m'encourage à continuer. Là.
Vous espérez être aussi belle que Pascal un jour?
Ben, aussi belle, évidemment, ça va être impossible. Là, mais en aussi bonne humeur, je pense qu'avec un peu d'activité, ça peut être la marche, ça peut être...
Ouais.
Un petit peu de vélo. Juste bouger un peu, ça fait du bien.
Faites attention, on ne peut pas m'attendrir aussi facilement en début d'entrevue
non,
politique.
Non, c'est ça. Elle n'est pas fragile. Non,
non, non, vous la connaissez mieux que moi, Yannick.
Donc, la rentrée parlementaire, comment ça se passe jusqu'à maintenant?
Bien, c'est comme une partie de hockey, Yannick. Quand tu es sur la glace, là, c'est sûr que ça brasse. Tu travailles dans un coin, puis tu reçois des coups de temps en temps. C'est différent dans les estrades. Tu sais, dans les estrades, quand tu es dans l'opposition, bien, c'est... Tu regardes, puis tu commentes, puis des fois tu critiques. C'est correct, c'est chacun sa job. Mais moi, j'aime beaucoup être sur la glace. Pour se battre pour les gens de la région de Québec en particulier, c'est ma job à tous les jours. Puis je le fais avec beaucoup, beaucoup de plaisir.
Là, vous étiez majoritaire parce que vous aviez une association avec le NPD. Le NPD a tout simplement dit, moi, l'association s'est terminée avec le Parti libéral. Le Bloc québécois, on avait l'impression qu'il rentrait dans la danse pour dire, ben nous, on va appuyer le gouvernement de Justin Trudeau. Là, il y a une certaine négociation qui est en cours avec des augmentations pour ce qui est des retraités, donc de ceux qui sont de 65 ans jusqu'à 75 ans. Le Parti libéral est dans le trouble, là.
Bien, on a toujours été...
Dans le trouble?
Dans le trouble, genre, j'allais pas dire ça, là, mais on a toujours été en discussion avec les autres partis d'opposition. C'est un gouvernement minoritaire.
Ouais.
Si tu veux faire avancer les choses puis servir les concitoyens, il faut que tu t'entendes avec les autres partis d'opposition. Bon, oui, avec le NPD, peut-être que l'association était plus évidente, mais avec le Bloc, on a toujours travaillé ensemble aussi. On va souvent voter pour des projets de loi qui étaient importants pour les Québécois, et qu'on a fait ça souvent. Puis là, bien évidemment, là, le NPD, il trouve ça plus dur, là. Il se fait taper dessus par le Parti conservateur avec toutes sortes de choses qui sont fausses, là, mais c'est à eux de se défendre. Fait que là, nous, on est tout seuls à la patinoire, puis on fait notre job comme gouvernement. Je vais parler rapidement des aînés. Tu sais, aider les aînés vulnérables, là, c'est ce qu'on fait depuis 2015. Le taux de pauvreté des aînés à Québec a baissé d'à peu près 20 % depuis 2015, avec toutes les choses, le supplément de revenus garanti qui a augmenté, puis l'âge d'admissibilité qui est revenu à 65 ans. Là, M. Blanchet a proposé un projet de loi qui donne plus d'argent à un couple qui gagne 150 000 $ de revenus de retraite qu'à un aîné tout seul qui nous écoute qui en a 20 000 de revenus de retraite. Nous, on comprend l'intention, c'est d'aider celui qui a 20 000, mais c'est parce que c'est la meilleure façon de donner plus d'argent encore à des couples qui n'en ont pas besoin. Moi, en terminant, je rencontre plein de gens dans la région de Québec qui me disent « Écoutez-moi, je vis une très bonne vie, j'ai une très bonne retraite du public ou du privé. Pas besoin de cet argent-là pour... »
Mais il y en a qui en ont besoin. J'étais encore avant-hier, j'étais au Normandin, puis moi, j'étais une mammaire. Là. Mon travail me permet d'être une grosse mammaire. Donc, j'écoutais des gens qui étaient à côté de moi, deux à droite qui étaient des retraités, qui étaient très heureux de la proposition des François Blanchette. Moi, c'est pas mon préféré, bien honnêtement, François Blanchette. Là, jamais je m'entendrai avec lui au niveau politique. Mais je trouve qu'il vous a mis un bâton dans les roues qui est un peu embêtant pour vous. Parce que là, le Canada n'a plus d'argent. On va probablement avoir besoin de couper partout pour ce qui est des prochaines années. Et là, François Blanchette arrive avec cette proposition-là qui va plaire grandement aux gens qui voteraient pour vous aux prochaines élections. C'est un gros problème, sa proposition pour vous.
Bien, si vous êtes un bon politicien, c'est une mémère parce que dans les restaurants, c'est ça qu'il
faut
faire.
Vous êtes ma mère aussi?
Oui, probablement, parce que j'en ai rencontré en bas, justement, dans le restaurant des aînés. C'est sûr que quand tu parles aux aînés de manière générale, ils vont tous dire plus d'argent, c'est probablement bon. Il n'y a personne qui va dire que plus d'argent, c'est mauvais dans la vie. Mais quand tu leur demandes, est-ce que c'est plus important d'aider ceux qui en arrachent, puis surtout des femmes d'ailleurs, qui n'ont pas des gros fonds de pension, qui se retrouvent veuves plus vite que les hommes, t'sais, c'est plus important d'envoyer cet argent-là à ces gens-là que d'envoyer de l'argent. Moi, j'ai pas besoin de ça. Là. Dans une couple d'années,
non,
je vais être...
Non.
Mais M. Blanchette non plus, là, pas besoin de ça.
Vous avez eu une belle carrière avant.
Oui, mais c'est vrai, M. Blanchette aussi, dans une couple d'années, on a le même âge, là, deux mois et deux jours de différence.
Mais vous avez vraiment identifié les femmes comme étant peut-être, dans les dernières décennies, des femmes qui sont restées un petit peu plus à la maison, qui n'avaient pas pu faire ce fonds d'argent-là qui vont leur servir à la retraite. C'est ça que... Puis ça me fait penser, hier, Yann, à la Boucher Généreuse, moi, j'en ai rencontré là, au moins quatre vieilles dames qui m'ont partagé aussi cette difficulté-là. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui résonne? Je ne sais pas. Je ne les croise pas assez souvent. Mais vous identifiez ça comme étant un problème qui sera à venir?
Ça résonne chez les gens qui ont... Les retraités qui sont plus vulnérables, sont plus précaires. En vieillissant, nos besoins augmentent en soins de santé, en logement, en déplacement, y compris en soins dentaires. On pourra peut-être en parler. Mais les revenus ne changent pas, puis notre épargne diminue. Fait que c'est ces gens-là qui ont le plus besoin d'argent. Moi, je n'ai pas besoin de cette augmentation-là dans une couple d'années. Puis M. Blanchette non plus. Mais comment est-ce qu'on fait pour prendre cet argent-là puis la donner vraiment aux gens qui en ont le plus besoin?
Aux bons endroits.
Mais est-ce que ça va être accepté, la proposition des François Blanchette, d'augmenter les 65 ans à 74 ans, à 75 pour ce qui est de leur retraite?
Bien, ce qu'on a dit à M. Blanchette, c'est que si vous voulez, comme on l'a fait dans les dernières années, aider les aînés les plus vulnérables, on est prêt à travailler avec vous. Mais c'est sûr que votre projet de loi, c'est pas ça qu'il fait. Votre projet de loi, il prend beaucoup d'argent, puis il l'envoie à des gens comme vous, M. Blanchette, puis à moi qui n'en ont pas besoin.
Okay. Mais ça risque pas de faire tomber le gouvernement?
Bien, on va voir si M. Blanchette se préoccupe vraiment des aînés vulnérables. T'sais, l'argent, il est limité. Nous, on l'a toujours donné à la classe moyenne puis aux familles à plus faible revenu. L'allocation canadienne pour les enfants, c'est ça qui se passe. Là. Il y a à peu près 120 000 parents dans la grande région de Québec, donc plusieurs qui nous écoutent. Le 20 de chaque mois, là, ils reçoivent un chèque d'allocation canadienne pour les enfants. Ça réduit la pauvreté de 50 %. Ce chèque-là, il ne va plus aux familles de millionnaires comme dans le temps de M. Harper. Ce chèque-là, il va aux familles qui en ont le plus besoin.
Vous pensez que c'est une stratégie politique de M. Blanchette? Donc, c'est pour ça que vous vous dites, on va attendre de voir s'ils vont l'appliquer comme il se doit, les gens au Bloc québécois.
Bien, si M. Blanchette est sérieux, je pense qu'il doit être sérieux, il veut l'être, il va remplacer des menaces par du travail collaboratif.
Donc, travailler avec vous.
Bien, travailler avec nous, puis le NPD, puis tous ceux qui veulent aider les aînés les plus vulnérables pour s'assurer qu'on fait des bonnes choses, parce que ce qu'on mettrait en place présentement, ça va avoir des effets, non seulement pour la prochaine année, mais les 10 prochaines années, là, c'est des impacts de long terme.
Ça, c'est intéressant. Pour la prochaine année, pour les prochaines années, au Parti libéral, moi, ça fait longtemps, ça fait 10 ans peut-être que je suis la politique de façon assidue dans mon travail. Yannick, c'est la même chose. J'ai couvert le terrain en masse au fédéral, au provincial dans les dernières années. Et je dois vous dire, opinion personnelle, M. Duclos, vous êtes plus prompt ces temps-ci. Dans les dernières semaines, dans vos prises de parole, c'est plus direct. Encore le tweet de ce matin. Là, ça finissait avec point final. Est-ce qu'on prépare la suite? L'après Trudeau?
Bien, pour moi, là, moi, je suis sûr que diriger un pays comme le Canada, là, c'est tout un job. Moi, je vois mon premier ministre, M. Trudeau, là, puis il y a toute mon admiration. Rassembler un grand pays comme le nôtre, là, c'est vraiment pas évident. Diviser dans la vie, là, c'est très facile. Dans se chicaner, c'est très simple. Dans notre couple avec notre famille, là, si on veut se chicaner, là, on trouve le truc très rapidement. Mais rassembler le monde, là, ou surtout dans un grand pays, un beau pays comme le Canada, c'est toute une job. Puis moi, je le reconnais, puis j'ai aucune intention de me présenter comme chef du Parti libéral.
Mais avez-vous l'impression que le Parti libéral rassemble les gens actuellement? Parce que quand on regarde les sondages, ça va pas en ce sens-là. Là.
Mais c'est normal que les gens... c'est en train de changer, là. Les taux d'intérêt ont baissé 3 fois de suite. Le Canada a été le premier pays à les réduire une première fois.
Ouais. Ça, c'est pas grâce à Justin Trudeau, par exemple.
Pardon?
C'est pas grâce à Justin Trudeau, là, ben, que ça a descendu.
C'est parce qu'on a fait les bonnes choses. Parce que M. Pierre Poilievre, là, il dit, pour que l'inflation diminue, vous allez devoir tout couper. L'aide aux aînés, l'aide aux familles, l'aide au logement. Il faut tout couper ça, sinon l'inflation ne va jamais diminuer. Mais l'inflation, bonne nouvelle, premier pays de tous les pays développés, on est à un niveau où la Banque centrale du Canada, par rapport à tous les autres pays, les a réduits 3 fois de suite. Puis ça va continuer à diminuer au cours des prochains mois.
Il n'y a pas de chance qu'on se fasse décoter avec les dettes qu'on a, énormes, qu'on a accumulées dans les dernières années? Parce que la pandémie, vous n'êtes pas responsable de ça. Bon, ben peut-être à certains niveaux, au niveau de l'argent qu'on a donné, mais en bout de ligne, ça nous a endettés comme pas possible. Vous n'avez pas peur d'une décote au Canada?
Non, parce qu'on est effectivement, on est le meilleur pays à nouveau de tous les autres pays développés, là, du G7 en particulier. Même par rapport au deuxième meilleur, qui est l'Allemagne, là, on est de loin meilleur. Déficit, dette, là, tout ça, c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui veulent investir au Canada, parce qu'ils regardent notre solidité fiscale, ils regardent la croissance économique aussi. On est le deuxième pays sur les 7 plus gros qui croit en 2024. En 2025, on va être le premier pays de tous les autres pays, les 7 plus gros, là, on va être le premier pays en termes de croissance économique. En termes d'environnement, on fait mieux que tous les autres pays. La pollution, les gaz à effet de serre, c'est en train de diminuer au Canada. Tous les experts disent qu'on fait mieux que les autres pays. En termes sociaux, la pauvreté des enfants a diminué 50%.
Mais pour l'économie, par contre, M. Duclos, ça semble être l'épine dans le pied du Parti libéral dans le dernier mandat. Comment est-ce que vous l'expliquez? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas nécessairement des conservateurs qui ont malheureusement regardé l'économie du pays et qui se sont tournés vers le parti, qui n'étaient pas nécessairement des électeurs conservateurs habituellement. Et de ce que j'entends, c'est plutôt une réussite de ce que vous nous dites. Est-ce que ça a été une épine dans le pied, finalement, pour le Parti libéral, la façon de gérer l'économie dans le dernier mandat?
Je crois que non. Puis la preuve, c'est qu'on voit les effets dans la région de Québec. La région de Québec, en 2024, a reçu les plus gros investissements étrangers qu'on a vus dans l'histoire de la région. C'est pas juste à Québec que ça se passe comme ça, c'est partout au pays. Au Canada, là, on est le troisième en 2024 à attirer des capitaux étrangers. Tout le monde veut investir au Canada parce qu'ils savent que le gouvernement, mais surtout les Canadiens, font les bons choix. Il ne faut pas beaucoup de partis d'Amérique, mais Pierre Poilievre là, et l'élite conservatrice, la dernière fois qu'ils se sont prononcés sur les changements climatiques, ils ont dit que les changements climatiques n'existaient pas. En congrès, ils ont dit ça. Là. En 2024, là, Yannick et Pascal, là, dire que les changements climatiques n'existent pas, c'est mauvais pour l'économie aussi.
Mais on ne peut pas nier qu'il y a des changements climatiques, M. Duclos, mais en bout de ligne, quel est l'apport du Canada dans le monde? Quel est l'apport du Québec dans le monde pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre? Je lisais encore un article qui a été écrit il y a de ça quelques mois. On avait Antonine Iaccarini qui était ici, puis on parlait justement du Québec par rapport aux gaz à effet de serre. On est parmi les meilleurs au Canada. On en émet de moins en moins, puis on est bien fiers de ça. Mais quand on regarde les priorités des Québécois ou encore des Canadiens, l'environnement, oui, est très important, là, mais en bout de ligne, ce qui est important, c'est l'économie. Puis on n'a pas l'impression que les libéraux sont maîtres de l'économie actuellement. Quand on regarde le bilan de Justin Trudeau, est-ce qu'on peut considérer que c'est un gouvernement qui commence à se fatiguer?
En tout cas, c'est sûr qu'avec tout ce qu'on est en train de faire, les gens pourraient dire « oui, vous devriez être fatigué », mais non, au contraire, on continue à être appuyé par beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs. C'est vrai qu'on peut parler des changements climatiques d'un point de vue moral. T'sais, c'est important de faire les bonnes choses
pour l'environnement.
Penser à nos enfants, à nos petits-enfants. On peut dire que c'est pour eux qu'on fait ça. Mais on fait ça aussi pour les emplois dans la grande région de Québec. Tout à l'heure, là, je vais aller faire une petite annonce. Là. C'est pas beaucoup d'argent, mais une petite annonce d'une entreprise qui se développe, entre autres parce qu'on investit dans la technologie, l'innovation verte. C'est beaucoup d'emplois aussi à Québec. On n'a pas de pétrole à Québec. Là. On peut pas.
Non, 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 en fait, c'est juste que vous ne voulez pas l'exploiter.
Bon, il y en a peut-être en dessous de vos locaux. Yannick,
on a
pas
des milliards et des milliards de litres de pétrole, puis on ne veut pas les exploiter. OK. S'il y a des élections demain matin, ce serait quoi le bilan de Jean-Yves Duclos à Québec pour nous autres?
Bien, avant les élections, moi, j'inviterais les gens à aller sur canada.ca/dentaire. Il y a des milliers de familles qui nous écoutent maintenant dont les enfants ne sont pas encore inscrits au régime dentaire. Ça, c'est beaucoup d'argent qu'on amène notre enfant, notre adolescent chez le dentiste. Il faut avoir la carte. C'est facile, canada.ca/dentaire, si nos revenus familiales sont moins de 90 000. Même chose pour les aînés. Il y a à peu près à Québec 20 000 aînés, plusieurs qui nous écoutent, qui n'ont pas encore allé chercher, n'ont pas encore allé chercher leur carte du régime canadien de soins dentaires. 88 % des dentistes sont inscrits. Là. Ils veulent tous participer, mais ça prend, faut que les gens aient leur carte.
Mais ça, est-ce que ça fait partie de votre bilan?
Bien, ça, c'est une information que je voulais partager. Parce que des fois, les gens se demandent, ben, la politique, ça nous donne quoi là, d'en parler à la radio? Bien, c'est un exemple.
Ils ont voulu embarquer avec vous, les dentistes. Est-ce que c'est une façon d'avoir plus de clients pour eux ou quand vous leur parlez, il y avait un autre que...
Bien, c'est surtout que les dentistes, ils savent qu'il y a plein de gens qui ne vont pas les voir ou qui vont les voir trop tard. Quand il y a une famille, un ado là, de 13 ans qui arrive, toutes les dents cariées, puis que la famille, la mère, a dit « Je ne peux pas aller vous voir parce que ça coûte trop cher. » Bien là, le dentiste, il dit « Ça va vous coûter encore plus cher, ça va être pas mal plus compliqué. »
Puis dans la société, tu sais, moi, Yannick et moi, on a déjà eu un débat là-dessus. Moi, c'est une des choses que vous avez instaurées avec laquelle je suis d'accord, que mon argent, en tant que contribuable, qui s'en va dans un régime comme celui-là, j'accepte. On a tous nos priorités, on a tous notre observation. On a d'autres avec lesquelles je ne suis pas d'accord de votre côté de parti, ça, c'est sûr, mais celle-ci, je la comprends bien. Puis là, je comprends que vous voulez en jaser beaucoup parce que c'est une réussite, vous l'avez menée à terme, là, officiellement, puis vous vous dites qu'il y a plein de familles qui veulent y aller.
Le bilan de Jean-Yves Duclos dans la région de Québec, c'est quoi?
Commençons par Chantier des Vies, le gouvernement de Pierre Poilievre l'avait exclu de leur stratégie nationale de construction navale. Ils ont de la job, puis de la job extraordinaire pour les 30 prochaines années, pas juste pour eux, mais pour un millier de fournisseurs, puis plusieurs centaines d'entre eux dans la grande région de Québec. Ça, c'est un pôle maritime exceptionnel.
Et qu'est-ce que vous avez fait pour le chantier des vies?
Bien, on l'a mis dans la nouvelle stratégie nationale de construction navale. C'est un des trois gros chantiers du pays. Pierre Poilievre et son gouvernement avaient exclu le chantier des vies. À cause de ça, on a perdu 10 ans. Si on va visiter le chantier des vies, là, on va voir que... Malheureusement, leurs installations, ça ne se compare pas du tout à C-SPAN à Vancouver ou à Irving à Halifax parce qu'on a perdu 10 ans. Mais là, on est en train de rattraper le retard rapidement avec l'Association des fournisseurs du chantier et la direction du chantier. Ça, c'est un exemple. Des centaines et des milliers d'emplois pour les gens de la région de Québec, des bons emplois. Un autre exemple, c'est le pont de Québec. On parle du troisième lien, d'un troisième lien, c'est bien, mais pour avoir un troisième lien, ça nous en prend un premier. Puis le premier lien, bien, c'est le pont de Québec. 35 000 autos qui se promènent dessus. Au cours des prochaines années, il faut mettre en place un plan de restauration pour le préserver puis l'utiliser pour les prochaines décennies.
Vous êtes un homme d'expérience, là. Vous avez quelques mois de plus que moi de vie. Moi, depuis que je suis jeune, que j'entends parler qu'on va refaire le pont de Québec, là, j'ai pas l'impression que je vais voir ça de mon vivant, là.
Là, je vous regarde, Yannick, vous avez encore très jeune et en très grande santé.
Mais on dirait que le pont de Québec, là, j'ai toujours l'impression que jusqu'à la fin de mes jours, il va être encore rouillé et laid. Il va laisser craindre le pire pour les gens qui ne sont pas des ingénieurs, parce que moi, je ne suis pas un ingénieur. Je le regarde puis je me dis, OK, on me dit qu'il peut durer encore 50, 100 ans, mais je le regarde puis il n'y a pas de l'air top shape. Pour passer régulièrement, là, l'été, moi, sur la... semblant de pistes cyclables qu'ils nous ont faites, ça laisse craindre le pire. Vous êtes persuadé, vous, qu'on va être capable de restaurer ça? Là?
Connaissez-vous le pont Jacques-Cartier?
Ben oui, je connais un peu, oui.
Tapez sur Internet pont Jacques-Cartier il y a 20 ans, puis pont Jacques-Cartier il y a en 2024. Vous allez voir la différence extraordinaire entre les deux ponts, puis c'est le même genre de pont. C'est ce qui va se passer avec le pont de Québec.
Donc ça, vous incluez ça dans votre bilan?
Ben c'est un bilan, mais c'est surtout des travaux à venir, hein, parce que là, on en a pour 25 ans là, de restauration.
Ça commence quand?
Ça commence aussitôt qu'on prend possession du pont, c'est-à-dire dans les prochaines semaines. L'entente a été signée. C'est comme là, on passe chez le notaire avec le CN. Là, on a signé notre acte d'achat. C'est-à-dire, ça a coûté 0 $ au gouvernement canadien, mais le CN contribue avec le gouvernement du Québec pour entretenir et restaurer le pont au cours des 25 prochaines années. On passe chez le notaire dans quelques semaines. Une fois que c'est fait, bien là, on fait des travaux de restauration, comme le pont Jacques-Cartier a vécu au cours des 20 dernières années.
C'est long chez le notaire, c'est plate. Là.
Ouais. C'est
OK. Pour ce qui est du tramway, est-ce que l'argent est réservé? Parce que c'est souvent les questions qui nous sont posées quand on fait le pit stop avec Denis Gravel puis Pascal. C'est que là, on ne sait pas s'il va y avoir des élections bientôt. Pierre Poilievre dit de son bord, moi, de l'argent pour le tramway, il n'y en a pas. Est-ce que vous avez réservé cette portion-là pour le tramway?
La réponse est oui.
Combien?
Puis c'est plus que 1,5 milliard. Puis ça, je suis désolé parce que vous l'avez demandé souvent, Yannick, je le répète encore et encore, puis je ne sais pas pourquoi les ministres du gouvernement du Québec, certains ministres ne comprennent pas, mais il y a 1,5 milliard et plus dans un compte, là, qui, c'est un compte tramoué, là. Cet argent-là, il est là depuis déjà plusieurs années, il est là, il attend. Parce que c'est un compte, comme un compte de banque.
Okay, mais il en manque encore. C'est 40% que vous êtes supposé de prendre la facture. Il en manque encore. Un milliard et demi, on en a passé. Là.
Ça vous décourage-tu, M. Duclos? Parce que clairement, en plus, on va peut-être retourner en appel d'offres là, dans le dossier.
Bien, moi, je suis encouragé parce que, soyons...
Vous êtes encouragé.
Soyons clairs. À Québec, là, on est la seule ville de taille comparable au Canada à ne pas avoir de réseau de transport en commun moderne.
Si on demande la question en deux temps aux citoyens de Québec, est-ce que vous voulez revitaliser et construire un réseau de transport en commun adéquat et moderne? Les gens, majoritairement, répondent oui. Mais une objection du tramway. Il y a quelque chose qui ne passe pas avec ce choix final.
Probablement en raison du prix. Quand on a fait des comparatifs avec ailleurs dans le monde, exemple du pied carré, là, on ne calcule pas ça comme ça, mais on aurait le tramway à Québec le plus cher du pied carré. On trouve que c'est une aberration, mais tout le monde est pour le transport en commun. On doit avoir un transport en commun efficace. Puis, M. Duclos, vous habitez à Québec depuis des années et des années. On a ajouté des centaines de millions de dollars au réseau de transport en commun, puis il n'y a pas plus que 6-7-8% des gens qui prennent l'autobus depuis des années et des années, malgré le fait qu'on ajoute toujours de l'argent. On arrive avec de l'innovation, les plus beaux autobus, des panneaux électroniques qui sont hyper intéressants. Il n'y a pas plus de monde là-dedans. Fait que je me dis, est-ce que le tramway, c'est vraiment la solution idéale? Puis si on a un changement de gouvernement, ce 40%-là qu'on est supposé avoir du fédéral, on va-tu l'avoir? Parce qu'actuellement, vous dites 1,5 milliard, mais c'est pas assez, M. Duclos. Il faudrait qu'il y ait plus d'argent pour combler le 40%.
Bien, deux choses. La première, c'est que, vous l'avez très bien dit, Yannick, je suis d'accord avec vous, ça nous prend ça à Québec. Pas juste pour que les gens aient plus d'options de se déplacer puis réduire la congestion pour tout le monde, y compris les automobilistes, mais en plus, ça va mener à la construction de logements le long du tracé. Les entrepreneurs sont prêts à en construire plusieurs milliers quand le projet va aller de l'avant. C'est vrai que c'est bon pour l'activité économique et les emplois à Québec. La deuxième chose, c'est que le 1,5 milliard, il est là. Il est disponible.
Donc, bon. Poilievre ne pourrait pas prendre ça puis le tasser ailleurs?
Bien, Poilievre pourrait, effectivement, s'il était élu, voler cet argent-là puis le mettre ailleurs au Canada. Il y a plein d'autres villes au Canada qui attendent juste ça, avoir plus d'argent pour développer leur transport en commun. Pierre Poilievre a dit qu'il allait faire ça, qu'il allait prendre cet argent-là dans le compte de banque des gens de la région de Québec puis allait le mettre ailleurs. Mais il y a plein de villes là, qui vont dire « parfait ». Mais nous, à Québec, est-ce qu'on va laisser faire ça? Je ne pense pas, parce qu'on est en retard. On est la capitale nationale du Québec, en plus. Fait qu'on a besoin, nous autres aussi, d'un réseau de transport moderne, comme les autres villes qui sont en croissance. Ça fonctionne comme ça partout sur la planète, quand on
mais
veut.
Mais c'est pas parce que ça fonctionne comme ça partout sur la planète qu'on est obligé d'embarquer là-dedans. Là, t'sais, une erreur qui est plusieurs fois commise, à un moment donné... À mes yeux, à moi, 6, 7, 8 de la population, c'est ce qu'on va avoir dans 10 ans qui va être dans le transport en commun. Est-ce qu'avec le tramway, on va se ramasser avec 20 de la population de Québec? Si vous êtes capable de me le promettre, on va signer ça, puis dans 20 ans, on se reparle.
Bien, c'est autour de 80 000 déplacements additionnels de plus par jour qu'il va y avoir avec le tramway.
Ça, c'est selon l'évaluation, mais les fois où on mettait des centaines de millions de dollars supplémentaires pour le réseau de transport à Québec, il n'y avait pas plus de monde. Moi, je suis d'accord pour le transport en commun, mais je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas d'autres priorités à Québec? Parce que pour ce qui est de l'axe nord-sud, la capitale nationale, on a deux liens. On en a un seulement où les camions peuvent passer. Et si jamais on ferme ce lien-là pour... Je ne sais quelle raison. Je ne le sais pas. Moi, il y a un accident majeur. Les détours, c'est de 200 km. On doit passer par Trois-Rivières. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est la capitale nationale. On fait raisin un peu si on n'est pas capable de faire passer les camions pendant une couple de jours. Là.
Bon, si vous parlez donc du troisième lien, comment on fait pour faire passer des véhicules lourds là, de la rive sud à la rive nord?
Exact.
Non. Mais la bonne nouvelle du pont de Québec, là, c'est que le pont de Québec, en cas d'urgence, là, on sait que le pont Pierre-Laporte ferme à peu près 30 minutes par année en moyenne.
Mais c'est ça, c'est faux.
Bien, c'est ce que les journalistes dernières... semblent avoir dit.
Ils sont menteurs. Les dernières fins de semaine, on a passé pas mal plus de temps à attendre parce qu'il y avait des incidents sur le pont.
Dans le sens que les véhicules lourds ne peuvent pas passer sur le pont Pierre-Laporte, là, les camions, à peu près 30 minutes par année en moyenne. Là. C'est sûr que des fois, c'est plus long parce que le pont de Québec peut être fermé. Là. C'est tout à fait d'accord avec vous. Mais pour ces 30 minutes en moyenne par année où le pont Pierre-Laporte ne peut pas faire passer des camions et des véhicules lourds, il pourrait passer sur le pont de Québec.
Les camions, ils peuvent pas passer, M. Duclos. C'est une information que vous avez pas, là. Puis c'est bien correct parce que la plupart des politiciens qui sont passés dans ce studio-ci n'avaient pas cette information-là. Ils vont pouvoir le passer à condition qu'on abaisse le plancher du pont de Québec.
Mais je vais revenir avec vous, Yannick, pour vous montrer les documents sur Internet disponibles. On ne pourrait pas passer trois voies.
Non, mais la hauteur n'est pas bonne. Puis les camions sont trop larges.
Non. C'est plus simple que ça. C'est qu'on pourrait passer deux voies. Il y aurait de la place en masse.
Si on abaisse le tablier.
Non, même pas besoin d'abaisser le tablier. Le tablier, il reste à la même hauteur. Au lieu d'avoir trois voies, durant la demi-heure où c'est fermé par année, c'est deux voies où on fait passer des voitures et des véhicules lourds.
Non, mais ça accroche en haut, M. Duclos.
Non, ben ça accroche pas. La hauteur réglementaire, c'est de 4,15 m. Puis il y a plus que 4,15 m sur les deux voies à la hauteur actuelle du tablier.
Alors, pourquoi on dit, depuis vos experts, en fait, là, ceux qui sont à l'Université Laval et qui se prononcent tout le temps là-dedans, disent « c'est possible les camions, mais on doit absolument abaisser le tablier ».
Si on veut faire passer trois camions…
Puis vous me dites le contraire.
Si on fait passer trois voies de large, il faudrait baisser le tablier. Parce que vous avez raison, la hauteur n'est pas assez haute pour trois voies. Mais si durant la demi-heure…
Ça, c'est la largeur, là.
C'est ça. La largeur n'est pas assez large pour faire passer trois camions avec la bonne hauteur. Mais si on fait passer juste deux voies… Le tablier actuel, il est correct.
Ça, on n'a pas l'air d'une bande d'éticlants. On a de l'air d'une capitale nationale quand on a juste un pont, puis on diminue en plus les voies sur ce pont-là pour faire passer.
C'est juste durant les temps d'urgence. Là.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est une demi-heure par année.
On est mal à mancher.
C'est pour ça qu'il faut parler de ça. Yannick, je suis tout à fait d'accord, il faut parler de ça, mais de manière informée. Puis il y a beaucoup de gens, des gens solides dans la région, des ingénieurs, des planificateurs, des gens dans l'industrie qui attendent, par exemple, pour construire le tramway. Tu sais, ouais. Des contrats
qui
sont déjà accordés.
Mais ils étaient où, ces gens-là, 40, 30, 20 ans, pour planifier ce qu'on vit là actuellement? C'était les mêmes ingénieurs avec les mêmes études. Ouais. Ces gens-là sont considérés comme des génies. Ils ont fait de longues études, mais on est dans le trouble à Québec. Ils étaient où, 20 ans? Pourquoi ceux de 2024 font encore plus les écouter?
Bien, vous posez une bonne question. C'est que tout ça, c'est dynamique. Quand on parlait du chantier des vies, là, il y a une grosse pente à remonter. Ça va prendre du temps avant de réengager les soudeurs, les plombiers, les électriciens, les techniciens qui vont être nécessaires. Fait que ça va prendre quelques années. Même chose pour les gros travaux de gros projets dans la région de Québec. En compétence, on l'a perdu dans les dernières années parce qu'on n'a pas eu de gros projets comme ça. Mais dans les prochaines années, moi, j'ai confiance que cette compétence va être rebâtie.
Ça se perd en travaillant en amont, on dirait, dans les partis politiques, là, provincial, fédéral. On travaille plus pour se faire réélire à la toute fin du mandat, du moins à partir du mi-mandat. Ça, j'espère que la politique va redevenir ce qu'elle était il y a quelques années. T'sais, des politiciens qui travaillent sur des dossiers qui ne font pas nécessairement une belle jambe. Ce n'est pas le Borésé, ce n'est pas charmant, ce n'est pas intéressant, mais ça reste qu'on travaille pour ne pas arriver dans des enjeux qui se détruisent comme en ce moment et qui divisent, parce que vous parliez de leadership et de rassembler les gens. Bien là, on est rendu avec une politique qui divise encore plus parce qu'on n'a pas travaillé en amont. Puis on se ramasse avec Yannick dit le traditionnel bâton de marde entre les mains. Je pense pas qu'on peut vous laisser partir sans parler d'immigration. Sentez-vous justement que le gouvernement Legault lance dans votre terrain tout ce qui est en jeu d'immigration avec les demandeurs d'asile qui risquent d'être renvoyés chez eux, avec un quota de personnes qui peuvent être ici et travailler en entreprise? C'est chaud, c'est bouillant et c'est des humains derrière ça.
C'est ça, c'est bouillant, c'est des humains, c'est sensible. Il faut faire attention quand on parle des êtres humains. On est tous des êtres humains. Certains qui ont plus de difficultés que d'autres dans la vie, qui n'ont pas eu la chance de naître dans une bonne famille ou dans un bon pays.
Vous en pensez quoi, ces nouvelles directives-là qui sont discutées?
La première chose que je vais clarifier, c'est que avant que le chemin Roxham ferme, là, c'est vrai qu'il y avait à peu près 70 % des demandeurs d'asile qui arrivaient par le chemin Roxham au Québec. Donc, le Québec recevait...
sans protocole, nécessairement, là.
C'est ça, mais ça, c'est avant que le chemin Roxham ferme.
Ouais.
Donc, la plupart des demandeurs d'asile qui arrivaient au Canada arrivaient au Québec par le chemin Roxham. Mais maintenant, on est rendu à 29 % La proportion des demandeurs d'asile qui arrivent au Québec, c'est 29 % Puis de ce 29 % il y en a à peu près le quart qui, dans la première année, partent dans d'autres provinces de manière volontaire. Fait qu'il n'en reste pas beaucoup, là, par rapport au poids du Québec dans la Fédération canadienne. La deuxième chose, c'est que c'est ça que M. Legault va vouloir se clarifier un peu son discours d'hier, parce que au Canada, là, est-ce qu'on peut vraiment déporter de manière forcée des gens de leur maison, des écoles avec leurs enfants, de leur milieu de travail, puis les forcer aller ailleurs au Canada, avec des menottes? Je sais pas, M. Legault va vouloir s'expliquer parce que les gens n'ont pas vraiment compris le fond de sa pensée.
Parce qu'en ce moment, c'est de voir qu'un gouvernement n'a pas géré sa limite d'intégration de façon intéressante et professionnelle et politique. Et puisqu'ils sont rendus face à un mur d'intégration, de la misère à bien le faire, bien, la solution pour eux, c'est de déporter des gens.
C'est ça. Sur les demandeurs d'asile, évidemment, il y en a 120 millions dans le monde, puis il y en a plusieurs qui sont arrivés au Canada dans les derniers mois. Le nombre de demandeurs d'asile à l'aéroport de Dorval là, a chuté de 70 % dans les derniers mois. Donc, avec les Mexicains qui ont besoin de visa, d'autres aménagements, il y a 70 % de moins de demandeurs d'asile qui arrivent à Dorval. Il y en a encore, évidemment, mais beaucoup moins qu'avant. La deuxième chose, c'est, bon, on dit qu'il y a trop d'immigrants temporaires ici à Québec ou ailleurs au Québec, mais on se souvient qu'après la pandémie, c'est souvent une question de survie pour les entreprises, les PME, entre autres, dans la région de Québec. Elles avaient besoin de travailleurs, sinon elles allaient faire faillite.
Alors, êtes-vous d'accord avec cette politique-là? Parce qu'il nous reste quelques minutes, gros max, deux minutes en ce moment à l'entrevue. Est-ce que vous êtes d'accord avec la politique de M. Legault?
Bien, c'est ce qu'on met en place nous-mêmes. Là. On a déjà annoncé une baisse de 45 % du nombre d'étudiants étrangers au Canada. Ça ne s'applique pas encore au Québec parce que M. Legault a besoin de temps pour savoir comment faire au Québec. Pour les travailleurs temporaires étrangers, on a dit « on en a assez ». Vous voyez, les entreprises criaient famine après la pandémie, il y avait des risques de faillite et de récession. Mais là, on en a suffisamment. On va engager ceux qui sont déjà sur place. Les demandeurs d'asile, comme on disait, 70 % de moins, juste 29 % qui viennent au Québec.